Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Léa Sabourin, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Marguerite Caton, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Deuxième volet de notre série consacrée aux militaires. Hier, nous parlions des nouvelles stratégies des armées occidentales. Demain, nous nous pencherons sur la puissance militaire chinoise, avant de terminer cette série jeudi par la question des milices privées. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aux liens entre l'armée et les pouvoirs politiques. De Caracas à Bangkok, les militaires font de la politique et cap pour commencer sur le Venezuela.
On veut que ces soldats s'unissent à nous et laissent passer l'aide que nous demandons. Nous voulons la liberté.
Ils veulent que les forces armées deviennent des putschistes. Est-ce que vous êtes des putschistes ? Traite jamais, loyaux toujours.
Leale siempre.
Es el momento.
Il est temps d'être du côté de la Constitution. C'est le moment de respecter le peuple du Venezuela. Soldats du Venezuela, je vous donne l'ordre de ne pas tirer sur le peuple du Venezuela.
Dispares al pueblo de Venezuela.
Voilà, on entendait à l'instant Nicolas Maduro demandant aux forces armées de lui rester fidèles, mais aussi Juan Guaido appelant les soldats à ne pas tirer sur le peuple. On le voit, les militaires sont plus que jamais les arbitres de cette crise vénézuélienne. Depuis trois jours maintenant, les ténèbres semblent avoir envahi le Venezuela, alors que des coupures d'électricité paralysent tout le pays. À la demande du président par intérim Juan Guaido, l'Assemblée nationale a décrété hier l'état d'urgence afin de permettre l'entrée de l'aide humanitaire, une aide internationale qui, depuis le 23 février, est bloquée aux portes du pays, stoppée par l'armée justement de Nicolas Maduro. L'actuel président vénézuélien au pouvoir depuis 2013 peut pour l'instant compter sur la fidélité de la majorité des militaires encore sous ses ordres, mais le retour de Juan Guaido à Caracas et le fait qu'il n'ait pas été arrêté par les forces armées interroge. Est-ce le signe d'une armée qui s'apprêterait à lâcher son chef? Les promesses d'amnistie de Guaido vont-elles faire basculer la junte militaire qui, depuis Chavez, occupe une place centrale au sein du système politique vénézuélien? Et puis qu'en est-il des autres armées du continent latino-américain, au Brésil notamment? Quels sont les liens, en général, entre les régimes politiques et les militaires aujourd'hui? Et d'où vient cette proximité, voire carrément cette confusion parfois entre ces deux entités? Pour évoquer toutes ces grandes questions, évidemment centrale et particulièrement d'actualité, nous avons invité Paula Vasquez. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, politologue, une spécialiste du Venezuela et puis chercheuse au CNRS, auteure de plusieurs ouvrages. Le chavisme, un militarisme compassionnel. Et puis à venir, ce sera dans quelques semaines, pays hors service, le Venezuela de Chavez à Maduro. À vos côtés, Jean-Jacques Kourlianski. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IRIS et puis directeur de l'Observatoire d'Amérique latine de l'association Jean Jaurès. Je le disais, Paula Vasquez, depuis jeudi dernier, maintenant, le Venezuela est plongé dans le noir à cause d'une gigantesque panne d'électricité bloquant les hôpitaux, les transports, etc. La situation est vraiment de plus en plus critique. Nicolas Maduro et Juan Guaido se rejettent la responsabilité. Le premier accusant même les États-Unis d'être à l'origine d'une cyberattaque qui aurait paralysé cette fameuse centrale hydroélectrique de Guri qui dessert à peu près les trois quarts du territoire. À qui la faute? Et puis on verra si cette panne de courant peut permettre à Guaido de faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays, ce qu'il essaye de faire depuis des semaines. Mais d'abord, à qui la faute?
Au manque d'investissement et désinvestissement même et abandon de toute l'infrastructure électrique du pays, tant thermoélectrique que hydroélectrique et surtout ce qu'on appelle les systèmes d'interconnexion nationale qui est en panne et qu'on savait qu'il allait tomber en panne. Il y a une urgence électrique au Venezuela, des générations d'électricité depuis 2009. Et là, on arrive au comble de cette situation. Et c'est une conjonction de circonstances qui amène à ça. C'est-à-dire, c'est une condition. Ce n'est pas un événement. C'est quelque chose qui allait arriver. Moi, je pensais que ça allait arriver l'année dernière. Et puis, ça tombe justement aujourd'hui.
Mais les accusations de Maduro qui dit c'est une cyberattaque qui vient des États-Unis.
C'est pas possible la cyberattaque parce que Guri, c'est un système analogique. Ce n'est pas numérique.
Ah oui.
Ce n'est pas connecté au réseau extérieur Guri. Mmh. Donc, la faille hydroélectrique, ce n'est pas possible. Et par rapport à l'incendie, les tours sont envahies par la végétation de la forêt vénézuélienne. Mmh. Et là, ça fait que n'importe quelle surchauffe fait que les systèmes ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas rétablir les charges nécessaires. Et c'est un système à l'abandon, en fait.
Jean-Jacques Courlianski, réaction sur la situation. C'est vrai qu'on en parlait un tout petit peu avant l'émission. On a le sentiment qu'au Venezuela, on a toujours l'impression d'être vraiment au plus fort de la crise. Et puis, ça s'aggrave encore. On est là dans une situation de blackout total. Le Venezuela est tout simplement plongé dans le noir en ce moment même. Est-ce que cette situation peut changer la donne? Et surtout, est-ce que cette panne de courant peut permettre à Juan Guaido de forcer cette entrée de l'aide humanitaire, ce qu'il essaye de faire depuis des semaines maintenant?
Bon, alors, on va essayer de faire le lien avec le sujet de l'émission.
Oh, on va y venir, vous
inquiétez
pas. Les militaires
au Venezuela, les militaires en Amérique latine.
On va y venir, vous inquiétez pas.
Donc, le problème actuellement, c'est que l'Assemblée nationale du Venezuela, qui est une assemblée qui a été élue en 2015 et qui est majoritairement d'opposition, n'a pas de pouvoir effectif sur la situation au Venezuela du fait qu'elle a été déconnectée par le président Maduro, qui donc elle peut voter effectivement un certain nombre de choses, notamment l'état d'urgence, sans avoir la possibilité de le faire appliquer. Et donc là, on revient au sujet des missions. Pourquoi? Bon, parce que le président Maduro détient les clés du contrôle du territoire vénézuélien, quels que soient les problèmes, obscurité ou pas, en raison de la fidélité des forces armées. Il y a eu effectivement quelques défections, quelques centaines de soldats et d'officiers, mais pas d'officiers généraux, qui ont passé la frontière de la Colombie. Bon, la semaine dernière, ils étaient estimés à 600 environ, ce qui est un chiffre relativement appréciable, mais qui est relativement limité par rapport au périmètre des forces armées.
350 000 militaires, voilà, policiers. Voilà, donc, voilà. Effectivement, ça fait assez peu. Paul Vasquez, c'est vrai que pour l'instant, l'armée semble encore fidèle à Maduro. Pour combien de temps et comment le comprendre?
Et surtout, la question est extrêmement pertinente par rapport au blackout total dans lequel se trouve le pays, parce qu'un gouvernement, disons, que a les forces armées avec lui et qui a les contrôles sur les institutions de l'État, la réaction logique, c'est décréter justement l'état d'alarme, d'alerte, pas pour aller réprimer la population, pas pour suspendre les garanties constitutionnelles avec un état d'exception, mais surtout pour déployer, ou en tout cas, comme on a fait avec la catastrophe de 99, que Chavez a très bien géré la chose pour construire un problème politique, ouvrir les casernes pour les hôpitaux et mobiliser des moyens spéciaux pour le faire. Mais Maduro ne l'a pas fait. Pas seulement ça, mais ils sont dans les dénis. Ça veut dire qu'ils ont l'opportunité de déployer les forces armées dans tous les territoires nationaux au nom d'une catastrophe et ils ne les font pas. Et c'est pour ça que c'est un moment extrêmement intéressant, parce que c'est une rupture par rapport à ce que Chavez avait toujours fait, c'est-à-dire déployer la compassion vis-à-vis des victimes et des démunis. Et en ce moment, Maduro ne le fait pas, c'est-à-dire il ne mobilise pas les forces armées pour venir au secours de la population, qui a été toujours un capital politique important du chavisme.
Jean-Jacques Courlianski, Maduro avait promis que Guaido serait arrêté et enfermé après son séjour à l'étranger. Il se trouve qu'il a fini par rentrer et qu'il n'a pas été arrêté. Comment l'interpréter? Est-ce que c'est le signe qu'au fond l'armée n'obéit plus complètement aux ordres de Maduro?
Bon, on peut faire que des hypothèses. Hein. Personne n'est sous le bureau de travail de Nicolas Maduro et de son gouvernement. Mais le président autoproclamé, donc il y a un problème de désignation. D'ailleurs, il y a eu des articles extrêmement intéressants sur les diverses façons de le désigner. A fait une tournée en Amérique latine. Il a visité un certain nombre de pays en vue d'obtenir des garanties d'une réaction internationale.
Et Maduro a prévenu, il a dit, s'il rentre, je le fais arrêter, je le mets sous les verrous. C'est pas le cas. Comment l'interpréter?
Je vous réponds, laissez-moi parler. Je vous dis, tout en prenant en compte cette donnée, Maduro a dû prendre en compte le fait que Juan Guaido est allé prendre des garanties à l'extérieur, puisqu'effectivement, l'élément de force essentiel qui est le sien, qui est aussi un élément de faiblesse, c'est le soutien du président des États-Unis et des chefs d'État du groupe de Lima, donc les présidents conservateurs d'Amérique du Sud pour l'essentiel, et d'un certain nombre de pays européens. Donc il n'a pas encore visité les pays européens, mais il a visité la Colombie, l'Argentine, l'Équateur, il a rencontré le président chilien. Donc il était évident que si à son retour à l'aéroport ou un poste frontalier terrestre avec la Colombie, il était arrêté, il allait y avoir une mobilisation de l'ensemble de ses gouvernements, des pressions très fortes sur le Venezuela, une image négative dans les médias internationaux. Donc on peut supposer, on peut faire l'hypothèse que, bon, soit je l'arrête et donc effectivement je tiens ma parole et j'ai une situation difficile à gérer, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer, soit je fais le dos rond et je, disons, donc minimise.
Donc ça veut dire que Maduro se sent peut-être pas autant en position de force qu'il le prétend.
Il a quand même réagi en expulsant l'ambassadeur d'Allemagne, donc pour donner un signal aux pays, notamment européens, qu'il pourrait y avoir une réaction sur le terrain de la diplomatie.
Paula Vasquez, qu'est-ce que ça nous révèle effectivement de ce que soutient ou pas l'armée envers, de cette fidélité de l'armée ou pas envers Maduro?
Ça nous révèle que les pouvoirs de Maduro en ce moment se soutiennent surtout sur toute une série de corps paramilitaires, disons, ou des collectivos, comme on appelle au Venezuela, et surtout sur la police politique, les SEBIN, c'est ce que j'appelle les acronymes de la terreur, parce qu'il y a les DGSIM, que c'est la contre-intelligence militaire, et les SEBIN, plus c'est les collectivos qui sont toute une série, donc il y a différencié la police politique, les renseignements, qui exercent une répression énorme et il y a cette grande prison des prisonniers politiques à Caracas qui s'appelle El Helicoide, qui est devenue la menace militarisée de la répression de toute forme de résistance ou de contestation surtout. Et il y a les collectivos. Et c'est les collectivos qui ont agi à la frontière colombienne, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, les collectivos. Et il y a ces groupes militarisés qui ont été très actifs à San Antonio del Táchira, à la frontière colombienne, le 23 février. Et c'est là où on mesure C'est complètement atypique, c'est presque indescriptible, car c'est parfois ça a l'air d'une guérilla urbaine, et ça mobilise en moto, ça sème surtout la terreur dans les quartiers populaires, et ils sont armés. Et depuis que je travaille sur ces pays et sur ces phénomènes, je me souviens très bien de l'apparition des collectivos, ils disaient sans problème qu'ils avaient été armés et qu'ils avaient surtout des munitions et des armes avec une traçabilité, les balles étaient une traçabilité de la direction d'intelligence militaire, des renseignements militaires. Ça veut dire qu'il y a des vases communicants très forts entre ces groupes armés et les forces armées. Or, sont eux qui sont en train de faire, entre guillemets, le sale boulot. Car hier, à 3h du matin de Paris, Maduro a fait une allocution présidentielle en faisant appel à ses collectivos à sortir défendre la révolution. C'est-à-dire qu'il est prêt à tout, mais pas en utilisant les forces armées formelles, disons traditionnelles, mais ces groupes qui sont paramilitaires et fortement armés.
Jean-Jacques Kourlianski, faisons des hypothèses, parce qu'effectivement, vous avez raison, on ne sait pas forcément tout, mais on peut travailler sur des hypothèses. Juan Guaido, on l'a dit, a offert l'amnistie aux militaires qui lâcheraient Maduro, et pour l'instant, les effets sont assez modestes. Vous l'avez rappelé, 500, 600 défections peut-être, sur les 350 000 un peu plus, c'est assez peu finalement. Est-ce qu'il pourrait tenter d'aller plus loin et peut-être passer une forme d'accord politique avec l'armée sur un futur partage du pouvoir? Est-ce que ça, c'est un scénario qui vous semble plausible, Jean-Jacques Kourlianski?
Ça supposerait qu'il y ait les conditions d'un dialogue. Alors peut-être que la mission des Nations Unies, qui est actuellement à Caracas, va permettre d'établir des ponts. Donc on peut tout imaginer. Quand on fait des comparaisons avec d'autres situations, l'armée a lâché Moubarak en Égypte, mais pour finalement se retrouver au pouvoir quelques années plus tard. Donc on voit ce qui se passe en Algérie également, où l'armée joue un rôle extrêmement important. Donc on peut imaginer des révolutions de palais. Encore faut-il effectivement qu'il y ait des concessions effectives et des garanties qui soient offertes aux militaires. L'amnistie proclamée dans un contexte de sanctions économiques et de menaces de la part des États-Unis ne présente de toute évidence pas de garantie suffisante pour les militaires. D'autre part, les militaires savent également qu'il y a une partie des opposants qui souhaitent les voir devant des tribunaux pour répondre de leurs agissements. en corruption ou atteinte aux droits de l'homme. Et donc la parole du président de l'Assemblée nationale ne suffit pas, le vote de l'Assemblée nationale ne suffit pas à leur offrir des garanties suffisantes. Donc, dans quelles conditions créer la possibilité d'un compromis et d'un dialogue, pour l'instant, personne n'a trouvé la clé permettant d'arriver à ce compromis qui, de toute façon, il faudra faire un moment ou un autre.
Paul Avasquez, sur ce scénario-là, et puis ensuite on va en évoquer peut-être un autre, c'est celui au fond où l'armée renverse la table, lâche et Maduro, ne prend pas la main tendue de Guaido et au fond se place en seul acteur du pouvoir aujourd'hui au Venezuela, annonce chapeauter une forme de transition politique. Est-ce que ce scénario-là est possible aussi? Mais on va commencer par le premier, Paul Avasquez.
Disons que la question du dialogue,
c'est... Le nouveau pacte civilo-politique, quoi. Oui. Civilo-militaire, pardon.
C'est une situation difficile devant laquelle se trouve Madame Michelle Bachelet, la haute commissionnaire pour les droits de l'homme des Nations Unies au Venezuela, car justement au moment où elle arrive, Nicolas Maduro dit ce qu'il a dit hier soir, c'est-à-dire sortir la violence comme moyen de dialoguer, entre guillemets. Je ne pense pas que ça soit très efficace et surtout que Maduro soit très crédible. Comment dire qu'on menace une population qui est déjà extrêmement souffrante? C'est-à-dire, on a vu hier les militaires qui interdisaient la population se munir de l'eau potable. On a vu les perquisitions des sources d'eau potable. C'est-à-dire, c'est une situation telle que vivent les Vénézuéliens et c'est une manière de gérer cette catastrophe que là, les gouvernements de Maduro ne se trouvent pas dans une position crédible. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que il faut différencier les appels. L'appel à l'amnistie ne veut pas dire immunité par rapport surtout au délit et à l'implication des hauts gradés dans des activités illicites comme les narcotrafics. Là, l'appel à l'amnistie, ça veut dire surtout rassurer la troupe et les bas gradés et les lieutenants-colonels et ce type de les sergents, de dire vous pouvez nous rejoindre parce que ce sont les troupes. L'interrogation là-dessus, c'est si ces troupes-là ont accès aux armes et ont accès à une vraie aux capacités d'agir, parce que la question qu'on se pose, c'est qui commande les forces armées vénézuéliennes. Là, c'est une très bonne question, c'est-à-dire qui est vraiment au commandement des troupes et des bas gradés.
Officiellement, c'est Vladimir Padrino López, le chef d'état-major et actuel ministre de la Défense. C'est lui.
C'est le ministre de la Défense, mais lorsqu'on les voit agir dans un tel état de déni de la situation de la population, on se pose des questions sur quelle est leur stratégie. En tout cas, je ne vois pas des signes de dialogue. Et ils sont déjà
parce que pour
pouvoir.
L'instant, ils sont dans l'attente, ils regardent.
Ils sont à l'attente, mais lui est un acteur, parce qu'il faut rappeler comment se fonde le pouvoir du chavisme. C'est une alliance civilo-militaire qui est présente dans la constitution de 99. C'est-à-dire, on avait réussi à écarter les militaires du pouvoir vénézuélien entre 58 et 98. Et là, on se trouve avec une situation dans laquelle ils sont plus que l'arbitre, ils ont le commandement du pays. Donc, Padrino López, en effet, a été dans une position dans laquelle lui-même, c'est un acteur politique. Les forces armées vénézuéliennes sont encore des libérants. Ils doivent professer leur fidélité au Parti Socialiste Uni Vénézuélien.
Mais pour l'instant, un petit peu en retrait. Jean-Jacques Kourlianski, est-ce qu'on pourrait voir Vladimir Padrino López, qui est donc le ministre de la Défense, le chef d'état-major, reprendre d'une certaine manière un rôle politique premier et peut-être et lâcher Maduro et refuser la main tendue de Guaido? Est-ce que c'est ce scénario-là où au fond l'armée renverse la table et reprend la situation en main, si je puis dire, ce scénario-là, est-il plausible selon vous?
Il faudrait qu'on en reparle dans un mois et demi, deux mois, quand l'effet des sanctions prises par les États-Unis pour assécher les ressources financières du Venezuela vont provoquer des effets dévastateurs dans une situation qui est déjà catastrophique. Donc comment va réagir la population à ce moment-là, quand il y aura des pénuries, mais dans la mesure où le Venezuela n'aura pas les dollars
nécessaires, voilà.
Et donc à ce moment-là, effectivement, l'hypothèse que vous évoquez sera peut-être une des sorties un des scénarios possibles parmi tous ceux
qui... Ça fait 3 ou 4 ans ou 5 ans qu'il y a des pénuries vénézuéliennes.
Non, là il y a des sanctions très précises qui ont été prises à la fin du mois de janvier par les États-Unis pour empêcher le Venezuela de récupérer le produit de la vente de son pétrole. Donc, c'est estimé à 11 milliards de dollars pour
Donc, la situation peut encore s'empirer, c'est ça que vous dites.
Empirer, mais de façon catastrophique.
C'est déjà une catastrophe. Il y a la mortalité dans les hôpitaux, les morts des dialyses. Par manque de dialyse, les dernières 48 heures, c'est quelque chose de catastrophique dans n'importe quel pays. Tout comme les nouveau-nés, etc. Tous les hôpitaux sont complètement effondrés en ce moment même. C'est une situation déjà, on est déjà dans la catastrophe. Pourquoi? Parce que les sanctions concernent surtout l'opérativité des sites et de PDVSA. Mais déjà, PDVSA était dans un déclin.
Qui est la compagnie nationale, total,
la compagnie pétrolière était complètement en déclin. Donc là, ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est une pénurie d'essence, en tout cas. Mais déjà, le PIB est complètement effondré. Déjà, il n'y a pas de télécommunications. Déjà, il n'y a pas d'électricité. Et d'ailleurs, la crise électrique va continuer. On commence dans une période très forte de rationnement. Et c'est pas une question de redémarrer un système parce que le système ne peut pas être Donc, on est déjà dans la catastrophe. La question, c'est avec qui on est en train de négocier lorsqu'on négocie.
Mais c'est intéressant. On est déjà dans la catatastrophe. Et d'une certaine manière, il a raison, Jean-Jacques Collin. Ça peut encore s'empirer. Mais ça risque de coûter à Juan Guaido, parce que c'est lui qui pousse pour que l'Europe et les États-Unis mettent encore la pression pour affirmer de nouvelles sanctions. Donc on pourrait très bien avoir une armée qui finalement se dit, Guaido, il a perdu toute légitimité, y compris auprès de la population, à force de demander des sanctions. Et puis Maduro, il n'a plus de toute façon de légitimité, et puis la moitié du monde, au fond, ne le reconnaît plus. Donc on va s'occuper de la transition politique. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais on donne beaucoup de poids à la population, et la population n'a pas des poids dans la mesure où il n'y a pas de médias. C'est-à-dire, c'est à moi que mes informateurs me demandent ce qui se passe. Il y a des gens qui étaient sûrs, par exemple,
à Yarita. Les gens au Venezuela se tournent vers vous pour avoir des informations sur le pays.
À Yarita, à Puerto Cabello, les gens ne savent pas. Donc, il y a la rumeur domine et la peur aussi. Donc, on peut pas compter, on va pas aller compter en ce moment le nombre des manifestants dans les rues à Caracas. Ce serait presque cynique. C'est des gens qui sont épuisés, fatigués et qui ne vont pas sortir manifester, qui sortent pour chercher de l'eau ou de la nourriture.
Jean-Jacques Orlanski, puis je voudrais qu'on revienne à la question du poids de l'armée dans l'économie du pays.
Il y a un élément extérieur qui est extrêmement important dans ce conflit. Il y a le problème intérieur, on en a longuement parlé depuis le début de cette émission, et il y a, en particulier depuis les changements électoraux aux États-Unis et dans un grand nombre de pays d'Amérique latine, un changement de contexte. Et dans ce changement de contexte, a été créé en 2017 un groupe de pays, le groupe de Lima, dans lequel le Canada jouait le rôle de go-between des États-Unis, puisque le président Trump ne veut participer, y compris avec ses amis, il ne veut pas participer à quelque groupe organisé que ce soit. Donc ce groupe de Lima, ses principaux objectifs, sa feuille de route, c'est comment arriver à provoquer un changement de régime au Venezuela. Une transition démocratique, pour reprendre les termes des déclarations du groupe de Lima. L'hypothèse militaire a été évoquée, mais elle a été immédiatement écartée. Elle a été écartée notamment par la Colombie, en dépit de son animosité à l'égard très forte et des divergences idéologiques et politiques très fortes entre le président Iván Duque, qui a pris ses fonctions au mois d'août l'année dernière, et le président Maduro, pour une raison très simple, c'est le pays frontalier. Le rapport de force n'est pas évident d'un point de vue militaire, s'il y avait une guerre, la Colombie a appuyé par le Brésil, le vice-président brésilien, non pas le président Bolsonaro, mais son vice-président qui semble tenir les clés du pouvoir, qui est un général alors que le président est un capitaine, a déclaré qu'il n'était absolument pas question de s'engager dans une aventure incertaine, une aventure militaire. Donc à partir de là, l'option qui a été choisie, c'est d'étouffer le Venezuela. D'où une escalade de sanctions économiques qui, bien évidemment, n'ont pas été prises par les pays d'Amérique latine, Amérique du Sud, mais par les États-Unis, puisque le Venezuela, en période normale, exporte 41% de son pétrole en direction des États-Unis. Donc le robinet, maintenant, est fermé. C'est-à-dire que le Venezuela peut vendre son pétrole aux États-Unis, mais les États-Unis ne payent pas. C'est versé sur un compte qui est bloqué. Donc il y a un réseau également de plusieurs milliers de stations-service qui dépendent de PDVSA. Tout cela est bloqué. Et donc le Venezuela va se trouver, qui est déjà dans une situation catastrophique, va se trouver dans une situation chaotique.
Sachant que la rente pétrolière, alors, évidemment, elle profite assez largement à l'armée. Et que
La rente pétrolière, en dépit de la corruption, permet d'acheter, puisque le pétrole est monoproducteur et ne produit pas grand-chose et importe pour différentes raisons qui sont dues au dysfonctionnement de l'économie d'aujourd'hui, mais également aux problèmes que tiennent tous les pays pétroliers. On voit ce qui se passe en Algérie, notamment en ce moment, qui achètent tout ce dont ils ont besoin à l'extérieur. Donc, mais à partir du moment où le Venezuela ne pourra plus acheter, alors il y a deux hypothèses. Soit vous avez la révolution de Palais, dont on a parlé tout à l'heure, soit une émigration massive. La population vote avec les pieds.
Il y a déjà
2 à 3 millions de personnes. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une hypothèse parmi d'autres qui peut se révéler exacte en aggravant le chaos. On provoque un changement politique. Dans l'hypothèse de ceux qui le provoquent, le chaos, changement politique qui est défavorable à Maduro, soit on est dans une espèce de zone grise où donc la demande intérieure s'affaisse puisque on a une sortie massive de population.
Alors je voudrais quand même passer la parole. Je vais passer la parole quand même à Paula Vasquez, et il y a quelque chose sur lequel je voudrais peut-être que vous nous éclairiez, Paula Vasquez, s'il vous plaît. C'est la place de ce pouvoir militaire dans l'économie du pays, en tout cas ce qu'il en reste. Je disais, évidemment, la question du pétrole, elle rapporte assez largement à l'armée. Je voudrais comprendre, au fond, comment l'armée a eu cette place absolument prédominante dans l'économie du pays. À qui la faute ? Chavez, Maduro, évidemment, un peu des deux, mais quelle part pour l'un et pour l'autre ?
C'est devenu une économie des conteneurs, comme on dit, pour définir les cas algériens, c'est-à-dire que les militaires contrôlent les ports, les douanes et une bonne partie des entreprises import-export, soit elles sont gérées par les militaires eux-mêmes, soit elles profitent où ils ont des pots de vin, etc., d'une manière très importante. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que le Venezuela avait déjà perdu, selon les chiffres de l'ACNUR, qui suit cette situation de la migration vénézuélienne vers la Colombie, l'Équateur et le Pérou, déjà, il avait perdu 10% des populations avant les sanctions. C'est-à-dire, c'est en train de se passer. Si elle perd plus, il va perdre quoi, 50% de la population. C'est du jamais vu en Amérique du Sud. Ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que déjà, la population vénézuélienne ne se bénéficiait pas de la production pétrolière parce qu'elle était systématiquement détournée. Et je dirais même pas que c'est un système de corruption. Je dirais que c'est un système politique extrêmement complexe et interconnecté. Et ça a fonctionné. Ils ont créé des structures parallèles. La Compagnie nationale des pétroles vénézuéliennes ne gère pas toute la quantité de pétrole vénézuélien. Il y a aussi Cavimpeg, qui est directement géré par l'armée des terres vénézuélienne et qui se sont mis à commercialiser du pétrole.
C'est un système qui a été mis en place déjà à l'époque de Chavez?
Déjà, et qui c'était déjà. Pourquoi ? Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est basé sur l'union civilo-militaire. Les problèmes de ça, c'est pas une question uniquement idéologique. C'est une question qu'on a fait sauter les peu de mécanismes de contrôle. Par exemple, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y a pas possibilité de faire des audits administratifs. Déjà, quand j'ai travaillé sur le plan Bolivar 2000, que c'est le premier grand programme militarisé d'aide sociale, il n'y avait pas, déjà en 2002 et 2004, l'impossibilité de faire une audit financière des fonds gérés par les militaires. Et si vous voyez les Panama Papers, la quantité des généraux de l'armée des terres impliqués dans les Panama Papers, c'est extrêmement significatif. Ça veut dire que c'est un système qui n'est pas nouveau, qu'on a laissé faire pour peut-être justement faire fonctionner cette union civilo-militaire et qui aujourd'hui éclate parce que la manne sur laquelle ils s'alimentaient, ils se nourrissaient, est en panne. Elle s'effondre.
Je voudrais qu'on quitte, si vous voulez bien, le Venezuela. On va s'interroger maintenant sur la situation du côté du Brésil. Le nouveau président, Jair Bolsonaro, s'est fait élire, on le sait, sur des promesses de retour à l'ordre, ne cachant pas, disons, une certaine nostalgie pour la dictature militaire. Il y a quelques jours, je vous propose d'abord de l'entendre, ce président brésilien. Il a fait un discours lors d'une cérémonie officielle des fusillés marins de Rio. Et écoutez ce qu'il a dit, entre autres.
La seconde mission sera cumplida.
Notre deuxième mission sera accomplie aux côtés des honnêtes gens qui aiment notre pays, le Brésil, qui respectent notre patrie, qui respectent la famille et qui aiment la liberté et la démocratie. Mais la liberté et la démocratie existent grâce aux forces armées.
La démocratie et la liberté existent grâce aux forces armées. Jean-Jacques Kourlianski, c'est des propos qui ont suscité beaucoup de débats du côté du Brésil. Faut rappeler évidemment pour les auditeurs que le Brésil a connu une période de dictature militaire, de 64 à 85 en gros, et on sait que Bolsonaro, je le disais, est un nostalgique de cette dictature militaire, que par ailleurs, il est entouré lui aussi de nombreux militaires. Est-ce que son arrivée au pouvoir est un risque d'un retour de la dictature? Peut-être pas, mais en tout cas, est-ce que la démocratie vous semble en danger aujourd'hui au Brésil?
Bon, alors je voudrais revenir sur le thème général de votre émission, qui est assez intéressant. Si j'ai bien compris, il y a différentes émissions qui traitent des orientations stratégiques des armées occidentales, mais quand on arrive sur l'Amérique latine, c'est armée et politique. Bon, je voudrais dire quand même qu'armée politique, ça existait en France. Il y a eu le 13 mai 1958 avec le retour du général de Gaulle, avec le soutien des forces armées. Donc les forces armées ont une double dimension, la défense de la souveraineté extérieure, mais c'est aussi le monopole de la force publique qui est quelquefois elles utilisent à leur propre fin.
Donc le problème, il n'était absolument pas question de dire que il y avait une spécificité sud-américaine dans le poids que pouvaient avoir les armées dans le pouvoir politique. Et par ailleurs, on va parler dans un instant de la Thaïlande et c'est pas l'Amérique latine. Il y a une spécificité. Alors laquelle?
Si, parce que justement les pays d'Amérique latine sont des pays périphériques et qui ne pèsent pas dans le rapport de force internationaux. Il y a pratiquement pas eu. Donc, si vous lisez Eric Hobsbawm, il dit, donc c'est assez curieux, c'est un continent qui est un continent de paix. Effectivement, il n'y a pratiquement jamais eu de conflit en Amérique latine. Si on accepte la guerre du 19e siècle autour du Paraguay avec l'Argentine et l'Uruguay et le Brésil, et puis la guerre du Pacifique avec le Chili, le reste du temps, donc effectivement, l'armée a été un élément de régulation des conflits politiques et des crises intérieures, quelquefois avec des interventions de puissances étrangères, donc la France au Mexique, ou le plus souvent les États-Unis.
Jean-Jacques Kourlianski, je veux bien vous laisser dérouler et faire des tunnels de 5 minutes, mais si jamais vous ne répondez à mes questions, est-ce que l'arrivée de Bolsonaro constitue une menace pour la démocratie brésilienne, on n'avancera jamais.
Oui, c'est une démocratie prétorienne. Si vous prenez, il y a 22 ministres actuellement dans le gouvernement brésilien, dont 8 sont des généraux, un certain nombre d'autres ont des formations militaires. Tous les ministères ont des colonels ou des généraux chefs de département ministériel. On retrouve la situation vénézuélienne. Donc, il y a des généraux qui sont également dans la société Petrobras. Il y a un général qui dirige le système du courrier. Le programme du président actuel, Bolsonaro, définit le coup d'État de 1964 de façon explicite de la façon suivante. L'armée est intervenue en 1964 pour empêcher un coup d'État communiste.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, bien que d'extrême droite, Bolsonaro pourrait faire ce que Chavez, à l'extrême gauche, a fait d'une certaine manière avec le Venezuela, en utilisant l'armée pour asseoir son propre pouvoir?
Oui, parce qu'il n'a pas de parti politique, comme Chavez n'en avait pas. Donc, le seul élément structurant qui permet de conserver le pouvoir, c'est l'armée. Et donc, le véritable parti politique d'un certain nombre de présidents, qu'ils soient militaires ou non, dans le cas du Venezuela, actuellement c'est pas un militaire, mais c'était un militaire avant Nicolas Maduro, et actuellement, donc ce sont les militaires qui reviennent au pouvoir, et qui donc effectivement sont en train de prendre le contrôle du pays.
Paula Vasquez, jusqu'où vous semble pertinent ce parallèle que je faisais à l'instant?
Il est très intéressant parce que il faut différencier le militarisme de la question idéologique. C'est le militarisme, cette manière de penser qu'on a besoin d'un homme fort, ça vient d'une tradition du 19e siècle, le césarisme démocratique, la théorie du gendarme nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a que les militaires dans la société qui peuvent déclencher les changements sociaux. C'est très positiviste, cette idée de qu'on a besoin d'un gendarme qui guide les peuples désordonnés pour imposer l'ordre et aller vers les progrès. C'est pour ça les Brésil, c'est cette tradition militariste vers la droite positiviste dans laquelle on a besoin d'un homme fort pour guider les masses désordonnées. C'est caricaturalement ça et c'est extrêmement inquiétant que donc il y ait une légitimation de la dictature de droite des années 60. Or, il y a une autre tradition militariste latino-américaine, celle de Velasco Alvarado au Pérou à la fin des années 60 et le militarisme socialiste, celle de Omar Torrijos au Panama, également à la même époque où il y avait comme un militaire plus social mais tout aussi nationaliste. Et là, il y a des traditions qui se rejoignent autour de la question nationaliste. Disons qu'il y a, donc Chavez s'est inspiré du militarisme socialiste et Bolsonaro c'est idéologiquement autre chose, mais ils coïncident dans l'idée qu'il n'y a que les militaires qui peuvent sauver la nation, qu'il n'y a qu'eux qui ne sont pas corrompus, qu'il n'y a eux qui sauvent des partis politiques. C'est-à-dire, c'est un populisme militariste d'une certaine manière, parce que la démocratie, elle est vue comme quelque chose qui les menace dans la mesure où leur pouvoir est contesté. Et là, il y a un point de coïncidence.
Et ça, c'est le résultat de quoi ? Est-ce que c'est le résultat de la crise économique générale dans l'ensemble de la région ? Est-ce que c'est le résultat d'une crise sécuritaire qui là aussi touche depuis le Mexique jusqu'au Brésil, c'est le résultat de quoi là, cette montée en puissance de ce nationalisme qui utilise ce militarisme que vous évoquez?
Mais surtout, dans le cas de Chavez, il y avait un projet de pouvoir explicite, mais c'est intéressant la question de la violence parce que dans les cas vénézuéliens, on a joué avec les bandes criminelles pour imposer l'ordre social. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de comprendre les caractéristiques de la dictature vénézuélienne dans la mesure où il n'y a pas d'ordre. Tout au contraire, les désordres sert à régner, tandis que Bolsonaro a un discours extrêmement démilitarisation, de favelas, etc. Mais il y a beaucoup d'impostures dans le positionnement de Chavez par rapport à la violence criminelle, parce qu'au fond, la répression et l'impunité, la situation des prisons, elle est catastrophique. C'est pour ça que le chavisme est un phénomène complexe par rapport à son côté dictatorial.
Jean-Jacques Kourlianski, est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister aujourd'hui à un retour en force un peu général du militarisme dans l'ensemble de la région ? Il y a eu les gauches latines. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un moment avec une forme de retour des militaires ? Alors évidemment, on ne peut pas tout comparer. Il y a des pays où, d'une certaine manière, on est un petit peu protégé de tout ça. L'Argentine, le Chili, où il y a eu des dictatures militaires extrêmement fortes, où là, ce retour de ce militarisme qu'on décrit peut-être moindre. Mais est-ce que vous sentez quand même globalement ce retour du militarisme dans l'ensemble de la région ?
Oui, mais enfin, ça ne sera pas du tout le militarisme des années 70, les dictatures de sécurité nationale, on n'est plus dans ce contexte-là. On est plutôt dans un contrôle de l'appareil économique, de l'appareil administratif. Donc là, on peut faire des comparaisons Venezuela-Brésil. Effectivement, dans le cône sud, il y a une situation particulière dans la mesure où le traumatisme a été si fort dans ces deux pays qu'il y a eu une épuration des forces armées, des centres de la mémoire, une éducation. Et donc les forces armées, bon, on arrive d'ailleurs en Argentine à un budget des forces armées qui est à 0,5% du budget de l'État, donc une armée qui ne compte plus, qui n'est plus en situation d'être un acteur politique important. Mais de fait, dans les moments de crise, donc aujourd'hui, donc l'Amérique latine vit une crise économique, une crise sociale, une crise sécuritaire, le recours qui est presque naturel d'un point de vue politique, c'est de se tourner vers les forces armées qui sont un élément discipliné, formé, organisé, et qui permet au moindre coût de reprendre le contrôle du pays. Le paradoxe, par exemple, que l'on constate au Mexique, donc où un président progressiste a été élu, qui se trouve face à une situation sécuritaire, de sécurité intérieure, dramatique. Donc ses prédécesseurs ont mobilisé l'armée, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Il est arrivé au pouvoir en disant « je vais remettre la police au premier rang ». Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, face à une situation dans laquelle il est obligé de constater que la police mexicaine n'est pas fiable, elle est corrompue, que l'administration publique est corrompue. Donc il se tourne vers les forces armées, il a fait voter une loi en vue de créer une garde nationale.
Alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas, et d'une certaine manière, il fait du Calderón comme le...
Sous un emballage différent, il revient à une politique dans laquelle les forces armées vont jouer un rôle central.
Tout petit mot, Paula Vasquez, et puis on passe à la Thaïlande.
Disons que là, surtout comment contrôler la profonde violence sociale qui affecte les Vénézuéliens, les Vénézuéliens actuellement. C'est ça la question qu'on se pose. Les pillages, les émeutes qui sont en train de se passer. Est-ce que ça, cette répression énorme qui est en train de subir les pays, elle obéit à quoi? À un militarisme organisé, des répressions organisées, comme ça a été le cas du Caracas en 89, où il y a eu des exactions qui n'ont jamais été jugées, même pas par les chavismes. Ou est-ce que ça va s'agir d'alimenter des conflits entre des groupes qui sont informels, paramilitaires, et qui a les contrôles de ça? C'est ça la question qu'on se pose par rapport à l'état du militarisme vénézuélien actuel. Et il y a l'influence de Cuba aussi, qui permet beaucoup de spéculations sur cet état. Quel est le lien de ces hauts gradés vénézuéliens avec des fonctionnaires cubains qui seraient logés dans des forts militaires, surtout à Fuerteventura, au centre-ville de Caracas?
Ils sont très nombreux dans les forces armées vénézuéliennes.
Donc on se demande quelle est l'influence sur les hauts gradés.
Alors, on va parler d'un militarisme d'un autre continent, pour le coup, du côté de l'Asie. Le 24 mars prochain, se tiendront des élections législatives en Thaïlande, les premières depuis le coup d'État de 2014, au cours duquel l'armée a repris le pouvoir, mettant un militaire au poste de Premier ministre. Il faut rappeler que la Thaïlande, elle est devenue une monarchie constitutionnelle en 1932, mais qu'immédiatement, l'armée s'est imposée au pouvoir, et que depuis, les coups d'État sont monnaie courante, et que la Thaïlande est dans une instabilité politique quasi permanente. Bonjour Eugénie Mériot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante à Sciences Po, chercheuse à l'université de Göttingen et une spécialiste de la Thaïlande. Si je retrace à très grands traits la vie politique de la Thaïlande depuis une vingtaine d'années, on a 2001 la victoire du parti du social-libéral Thaksin Shinawatra, qui est très vite nommé Premier ministre par le roi. 5 ans plus tard, 2006, il est renversé par l'armée, après moult accusations et rebondissements autour d'affaires politico-financières. Il y a des manifestations qui s'organisent en son soutien. On a les fameuses chemises rouges auxquelles s'opposent les chemises jaunes qui soutiennent, elles, l'armée et le roi. En 2010, l'armée écrase les chemises rouges. Des élections sont organisées. La sœur du Premier ministre renversé est élue. Puis 2004, à nouveau, l'armée reprend le pouvoir. Si je résume, c'est en fait des allers-retours permanents par lesquels civils et armées se passent le pouvoir à tour de rôle. C'est ça l'enjeu de la prochaine élection, la reprise du pouvoir par le civil cette fois?
On peut décrire la Thaïlande comme étant une démocratie tutélaire, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle il y a des élections, mais qui finalement ne remettent pas en jeu fondamentalement l'exercice du pouvoir, qui est toujours verrouillé par les militaires d'une part et la monarchie d'autre part. Donc toutes ces périodes de coups d'État militaire, c'est pour reprendre en main le système dès lors que les civils acquièrent trop de pouvoir. C'était le cas de Thaksin, c'était également le cas d'Yingluck. Donc un coup d'État permet de créer une nouvelle constitution qui verrouille encore un peu plus le système. En fait, c'est le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire les élites, les civils deviennent de plus en plus performants dans leur exercice démocratique, et pour y faire face, eh bien les militaires, de la même manière, apprennent à sophistiquer leurs outils.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en fait le jeu est quasiment joué d'avance, Eugénie Mériot, et que les prochaines élections vont, oui, bien sûr, être gagnées par les civils et par l'opposition? C'est ça qui se profile.
Alors là, pour ces élections, le système est vraiment très bien verrouillée, puisque pour l'élection du Premier ministre, ce sont les deux chambres qui participent au vote. Donc le Sénat, 250 personnes qui sont toutes nommées par l'armée. Là, c'est en ce moment que le processus de nomination est en cours. On voit déjà que le Sénat sera presque complètement militaire. Et puis la Chambre basse, c'est 500 sièges qui, eux, sont élus, sachant que le Premier ministre actuel, donc l'armée, a également un parti, le Palang Pracharat, qui est donc son véhicule politique. Donc ça veut dire que pour se faire élire, il faut avoir pour le Premier ministre militaire actuel Prayut seulement 126 sièges à la Chambre basse, c'est-à-dire c'est quand même relativement peu puisque c'est 126 sur 500.
Oui, donc ça va être assez facile a priori. Ça va être assez facile et difficile pour l'opposition civile.
D'autant plus, oui.
Je vous en prie, allez-y.
D'autant plus que un parti d'opposition majeur vient d'être dissous par la Cour constitutionnelle. Donc là, on retrouve également le rôle qu'a toujours été la Cour constitutionnelle depuis sa création, c'est-à-dire de dissoudre les partis pro-Thaksin. Ça a été le cas en 2007, en 2008. Ça a permis d'ailleurs d'amener l'opposition au pouvoir en 2008, alors qu'il n'y avait pas eu d'élection.
Alors, il faut introduire maintenant un nouvel acteur qui est le roi, la monarchie, hein, parce que alors il y a un moment où la sœur du roi, la princesse Ubolratana, s'est portée candidate au poste de Premier ministre pour les prochaines élections. Et puis finalement, le roi s'y est opposé. Comment interpréter à la fois la candidature et le rejet de la candidature par le roi ?
Alors ça, c'est une question très difficile. Vous savez, c'est un peu la boîte noire de la politique thaïlandaise. C'est ce qui se passe entre les élites du palais. Donc là, la spéculation, c'est le jeu préféré des commentateurs sur la politique thaïlandaise. Je vais pas m'avancer sur exactement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça aurait été pour Thaksin vraiment un coup de génie si ça avait fonctionné, puisque Thaksin, son objectif, c'est de rentrer en Thaïlande depuis 2009, depuis qu'il est en exil à Dubaï, et il a tout essayé. Il a essayé de passer des pactes avec l'armée à plusieurs reprises, hein. C'était déjà le cas en 2012, ça a été le cas en 2013, donc via sa sœur qui a fait passer une loi d'amnistie qui a déclenché les manifestations qui ont débouché sur un coup d'État. Et donc là, c'est sa troisième tentative finalement en proposant comme ça la princesse comme chef de son parti et peut-être première ministre, elle aurait fait passer certainement une loi d'amnistie qui lui aurait permis de rentrer à la maison. Sauf qu'à chaque fois, ces pactes qu'il a passés avec le palais ou qu'il a cru passer avec le palais, parce que rien n'est moins sûr qu'il ait vraiment eu des rapports directs avec le prince puis le roi, se sont révélés en fait des fiascos totaux. Et d'ailleurs, on peut dire que Thaksin, finalement, il n'a pas du tout joué le jeu de la démocratie. Au contraire, c'est finalement à cause de lui et à cause de ses tentatives de rentrer à la maison que l'armée peut continuer à fortifier son appel auprès des notamment des chemises jaunes.
Eugénie Mériot, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Idées reçues sur la Thaïlande » qui était paru aux éditions du Cavalier Bleu. Et voilà ce qu'on peut y lire notamment. « Seules deux institutions du régime politique peuvent être considérées dans une certaine mesure comme ayant assuré la continuité du régime par-delà les coups d'État et les changements de constitution, la monarchie et l'armée. Cette démocratie, dites-vous, à la Thaï, se définit finalement par le rôle qu'elle octroie à l'armée et à la monarchie qui deviennent ironiquement les gardiennes de la démocratie. L'armée et la monarchie sont les gardiennes de la démocratie. On avait plutôt l'impression que justement c'était des institutions qui empêchaient l'avènement de cette démocratie.
Alors là, je reprends la définition ou la signification qui est attachée au mot de démocratie par les Thaïlandais eux-mêmes. Pour les Thaïlandais, la démocratie est synonyme de constitution et de constitutionnalisme. Donc les Thaïlandais vont toujours dire « nous avons importé la démocratie finalement en 1932 lorsque nous avons adopté une constitution ». Et donc pour eux, la démocratie, dans le discours, hein, dans les manuels de sciences politiques, dans les manuels de droit constitutionnel, la démocratie commence en 1932. Et donc la dictature militaire n'est qu'une des formes qu'a pu emprunter la démocratie thaïlandaise. Et d'ailleurs, c'est la forme peut-être la plus adaptée à la Thaïlande. Du moins, c'est le discours officiel dominant qui est donc cautionné par l'État et notamment par la monarchie et l'armée. Donc là, en fait, je reprenais le discours officiel thaïlandais.
Oui, en même temps, quand on a eu 18 constitutions depuis l'histoire du pays, ça fait une démocratie. 20 constitutions, ça fait une démocratie quand même un peu instable. Mais c'est intéressant, un peu, la Vasquez, Jean-Jacques Orlianski, cette idée qu'au fond, du côté de la Thaïlande, ce qu'on appelle la démocratie, c'est au fond le respect de la constitution, et voilà tout.
et c'est intéressant parce que la question de tutélaire, du caractère tutélaire de la démocratie, en fait, la solution qu'on a trouvée pour le bolivarianisme ou dans les cadres du bolivarianisme, ça a été de constituer un quatrième pouvoir, les pouvoirs populaires. C'est-à-dire, les législatifs, exécutifs et judiciaires n'étaient pas assez. Il fallait un pouvoir populaire et qu'on les voit agir aujourd'hui. Parce que c'est au pouvoir populaire que Maduro a fait appel hier. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que en voyant ça, et la violence que ça va déclencher en faisant appel à la Constitution, parce qu'il ne peut plus faire appel à la Constitution dans la mesure où Juan Guaido, lorsqu'il dit « nous nous plaçons du côté de la Constitution », et si un militaire vénézuélien aujourd'hui prend la parole via les réseaux sociaux, il dit qu'il se place du côté de la Constitution, ça veut dire qu'il se place du côté de Juan Guaido. Et là, c'est extrêmement intéressant de voir comment la Constitution devient un outil de positionnement politique et sa modification modifie justement complètement les jeux politiques également.
Et si on regarde du côté du Brésil, dont on parlait juste avant, Jean-Jacques Kourlianski, et qu'on regarde la Constitution de 1980, quelle place elle prévoyait pour l'armée et pour sa participation au pouvoir politique.
L'armée n'exerçait plus le pouvoir, mais elle l'a gardé curieusement. Comme il n'y a pas eu d'épuration comme en Argentine, au Chili, les militaires ont gardé le contrôle. Leur ministère de la Défense civile, ça date des années 2000, juste avant à l'époque du président Fernando Henrique Cardoso, et le premier livre blanc de la défense, donc négocié avec la société, les élus brésiliens, date de 2012. On assiste à un rembobinage actuellement, et on a une lecture de la Constitution qui est quand le président est apparu à la télévision, Bolsonaro, il avait la Constitution d'une main et la Bible de l'autre. Donc on a une interprétation tout à fait nouvelle de la Constitution, une nouvelle version du sabre et du goupillon, si on peut s'exprimer ainsi, en voyant bien que le goupillon n'est plus celui de l'Église catholique, mais celui des confessions pentecôtistes. Et que l'on retrouve dans le programme de Bolsonaro, notamment en matière d'éducation, où il s'agit d'épurer tout ce qui est, ce qu'ils appellent, lui et ses conseillers, le marxisme culturel, c'est-à-dire la formation citoyenne. L'école doit servir à préparer les gens au marché du travail, tout le reste, la morale, tout ce qui est morale sociétale, et citoyenneté relevant de la famille. ประเทศที่ภาพแต่สิ่งทำแต่อาชญากรรมสูงกว่าไอโฟประเทศที่กฎหมายไม่สู้พระธรรมหรือไบเบิลประเทศที่คนดีๆมีไม่สตูตีเป็นไอดอลประเทศที่ตุลาการมีบ้านพักบนอุทยานประเทศที่ใจกลางกรุงกลายเป็นทุ่งสังหารประเทศที่ผู้นำทานอิฐทานปูนเป็นของหวานประเทศกูมีประเทศกูมี
Rap Against Dictatorship, c'est un groupe thaïlandais qu'on entend à l'instant. Merci infiniment à nos invités, Eugénie Mériot qui était avec nous à l'instant par téléphone, idée reçue sur la Thaïlande au Cavalier Bleu. Merci à vous, Jean-Jacques Kourlianski, de nous avoir accompagnés, chercheur à l'IRIS et directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine de l'association Jean Jaurès. Paula Vasquez, un grand merci également à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai, vous concernant le chavisme, un militarisme compassionnel, c'était aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Et pour bientôt, c'est dans quelques semaines chez Buchet-Chastel, le pays hors service, le Venezuela de Chavez à Maduro. Merci infiniment à tous les deux. On prendra notre série consacrée aux armées du monde demain, mais pour l'heure, 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors hier, vous nous avez promis un bilan de la Commission européenne sortante. Par où on va commencer, Brice ?
Il faut commencer par le chapitre concernant la place de l'Union européenne dans le monde. Et de ce point de vue, notre environnement a changé de manière dramatique et dans un sens qui n'était nullement celui que les dirigeants européens avaient imaginé. Là encore, il faut se reporter au livre du néerlandais Luc van Middelaar que vient de publier Gallimard et qui s'appelle « Quand l'Europe improvise », parce que c'est un témoignage écrit de l'intérieur de la machine européenne de Bruxelles par quelqu'un qui n'a pas les yeux dans sa poche. Je le cite. « La guerre froide ayant pris fin, l'Europe occidentale a dit adieu à l'histoire avec un grand H. Nos démocraties prospères, ayant atteint l'ultime but chanté par Fukuyama, la fin de l'histoire donc, ne restait plus qu'à attendre que le reste de l'humanité s'acquitte à son tour de son salut. Et ben, ce constat ironique est parfaitement fondé. Durant une quinzaine d'années, l'Union européenne s'est convaincue d'avoir atteint une espèce de point de perfection, situé dans une post-histoire, post-moderne et post-nationale à la fois, et depuis ce stade supérieur de l'évolution humaine où le commerce encadré par le droit était destiné à apaiser tous les conflits, tout ce qu'il nous restait à faire, eh ben c'était d'encourager les autres à nous rejoindre. Et pour ce faire, nous disposions de la manne de nos crédits, l'aide au développement, du pouvoir de séduction de nos traités de libre-échange commerciaux, assortis de règles minutieuses et surtout de l'irrésistible force d'attraction que notre communauté exerçait sur nos voisins.
C'était l'époque glorieuse des élargissements de l'Union européenne, tout semblait lui réussir. Brice.
Et sans effort. L'Union européenne misait sur son soft power, elle n'avait qu'à exister pour séduire. Elle s'est prise pour un aimant, écrit Van Middelaar. Les pays d'Europe centrale ont accepté toutes nos exigences afin de faire partie du club européen, très chic, très tranquille et à l'époque très prospère. Cependant, écrit Van Middelaar, la force d'attraction est quelque chose de passif, elle n'implique pas de capacité d'action. Que faire avec les acteurs qui sont insensibles au magnétisme? Comment exercer une influence sur les superpuissances, sur les malveillants? Que faire si le mouvement d'extension progressive de l'UE provoquait une instabilité ou des heurts? L'insouciance stratégique marchait main dans la main avec l'inaction politique. Mais, je cite encore, que l'Europe se considérait comme un aimant passif et bien intentionné dans la révolte en Ukraine à Maïdan en 2014, le Kremlin a vu en elle un acteur hypocrite qui déplaçait les frontières. Et lors de la crise des migrants l'année suivante, l'UE a découvert qu'elle n'exerçait pas seulement une attraction sur les États, mais aussi sur les personnes. Or, s'il nous est possible d'accepter ou de refuser l'adhésion des États au club européen, il est bien plus compliqué d'interdire à 1 million de personnes déterminées de traverser la Méditerranée. En outre, notre ancienne prospérité, elle n'est plus si évidente aujourd'hui. À bien des égards, nous le verrons, l'Europe décroche. Ludwig van Middelaar, toujours, je cite, « L'aimant et la frontière sont des forces contraires. L'aimant met en branle, la frontière dit halte. L'aimant rayonne, la frontière marque. » Fin de citation. Or, à cette époque pas si lointaine, pesait sur la question des frontières extérieures de l'Europe un véritable tabou. Le processus de l'élargissement devait se produire, disait-on à Bruxelles, mais jusqu'où? Jusqu'à Vladivostok, au détroit de Bering? L'UE refusait de répondre. Elle s'interdisait de penser à une limite, elle se concentrait sur les valeurs. La gestion des intérêts stratégiques, les dures réalités de la géopolitique, eux, demeuraient de la compétence des États. Ces réalités sordides dont il fallait s'accommoder encore pour un temps.
Eh bien, tout cela a changé, Brice. Il a fallu qu'on nous retire le tapis sous les pieds.
Eh oui, c'est à la faveur de crises que l'Union européenne a pris conscience de ses fragilités, de ses vulnérabilités. C'est à la faveur de ces crises aussi qu'elle s'est résignée à retourner dans l'histoire qui n'est pas un conte de fées. Non, l'humanité n'était pas entrée en post-histoire. Elle ne partage pas le rêve européen. Oui, les frontières comptent plus que jamais. Oui, les logiques de puissance ont retrouvé toute leur importance. Trois crises en particulier. La crise de l'euro, elle a démontré que face à des événements imprévus, on ne pouvait pas se contenter d'appliquer les règles. Il faut des acteurs capables de prendre des décisions. La crise ukrainienne et l'annexion de la Crimée, elle a démontré que les Européens partagent non seulement des valeurs, mais qu'ils ont aussi des intérêts communs. Enfin, la crise des migrants, les Européens ont découvert à tâtons ce que partager des frontières implique, à savoir la nécessité de les garder.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve demain, Brice, mais dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.